Hell yeah, sur la Web Rock Station Vinyl Times, le Classic Rock Radio en direct d'Alger, comme chaque mardi soir. Bouge, bonsoir Bouge.
Bonsoir Rag et bonsoir tout le monde.
Ouais, ça va, tu vas bien, bien.
Ça va.
Tranquillement.
Ouais.
Eh, petite question, quelle température sur Alger en ce moment?
Ah bah là, c'est plutôt ça va. La matinée, il fait un peu dans les 20 degrés à peu près. Le soir, actuellement, il fait un petit peu moins de 10 degrés, mais ça va, c'est pas très froid. Donc ça va.
Bah, nous,
le temps est un peu doux.
Nous sur Paris, c'est tout doux. Hein. Alors là, franchement, c'est tout doux. Je suis très très surpris. Hein. C'est 10 degrés en ce moment, entre 8 et 10 degrés, donc ça va quoi. Ça roule.
C'est calme avant la tempête, je crois.
Ok, non, ouais, c'est le calme avant peut-être. Allez, la première, avant de commencer, un petit message pour Linda, qui est une amie donc sur Alger, sur lequel qui vient de se marier, donc qui s'est mariée aujourd'hui. On lui donc annonce tout nouveau de bonheur et puis pour la vie quoi. Et je pense que tu connais son mari.
Et justement, je leur passe tous les deux un petit salut. Donc elle m'a dit qu'il est aussi photographe, très talentueux d'ailleurs.
Mmh. Ok, bah écoute, tous les vœux de bonheur les accompagnent et puis j'espère qu'ils ont fait un très très beau mariage quoi. En tout cas, voilà quoi. En tout cas, la mariée est sublime. Hein. J'ai vu la photo, sublime, magnifique. Ouais, c'est cool, c'est top cool. En tout cas, je suis content pour elle. Tout, c'est génial quoi. C'est vraiment beau et tout. Donc voilà, une vie qui commence et tout, c'est génial quoi. Voilà. Allez, on part sur Martin Scorsese.
Voilà. Et tu sais. J'ai toujours eu ce problème de choisir un album avant de tout mettre en ordre. Je me suis penché cette fois sur un album assez spécial de Black Label Society. The song remains not the same. Dans cet album, Zach Wilde a mis au placard ses Gibson et sorti sa guitare acoustique ainsi que son piano. Un album sympa de 2011 qui prouve que Zach Wilde n'est pas qu'une barrique imbibée et qu'il peut se faire simple et sobre sur tout un album. Je parle de cette faculté de montrer plusieurs facettes, car c'est ce qui caractérise aussi Martin Scorsese. Pour l'occasion, je me suis revu deux films de mafia de Scorsese. Les Affranchis, donc, et le monument absolu de l'art de la narration de Scorsese, et Casino, qui est de la même trempe. Là, on se dit, ce sont deux films de mafia, ils sont pratiquement similaires. Eh bien non, ils ne le sont pas. Enfin, pas tout à fait, je le pense. Pour que ces deux films, bien que très proches, soient très différents, commençons d'abord par Les Affranchis. Ce sont d'abord deux ambiances. Là où Scorsese se concentrait sur l'ascension d'un jeune Italo-Irlandais dans le crime organisé. Ben oui, mafia n'existe pas. C'était même sorti de la bouche de J. Edgar Hoover, le mythique directeur du FBI qui avait des dossiers sur tout le monde. Dans les années 50. On sait maintenant que la mafia lui faisait pression parce qu'il était accro au jeu. Les Affranchis, donc, racontent le parcours de Henry Hill, joué par Ray Liotta, entouré de deux habitués des films de Scorsese, Robert De Niro et Joe Pesci. C'est l'histoire vraie de Henry Hill, qui grimpera les échelons de la mafia avant une chute vertigineuse. Les vagues de meurtre, avec les vrais détails, Frankie Carbone a dû attendre un dégel pour se faire autopsier. Leila et Derek and the Dominoes, la fameuse chanson de ce groupe, en moins. Avec ce film, Scorsese se penche sur les cinq familles mafieuses de New York. L'autre grande prouesse a été de faire passer Joe Pesci, 47 ans à l'époque, pour un mec de 21 ans. Ray Liotta aussi, 36 ans à l'époque. Le maquillage ne fait pas le change, mais alors pas du tout. Mais malgré tout, Les Affranchis restent un classique du cinéma à cause de l'alchimie qu'ils dégagent. Et là, c'est le travail des acteurs qui ont porté le film, commencé par Robert De Niro. Issu de l'acteur studio, il a cherché les moindres détails de son personnage, Jimmy Conway, jusqu'à la façon de tenir ses cigarettes. Il avait même contacté le vrai Henry Hill pour ce détail. Lorraine Bracco, qui incarne la femme d'Henry Hill, essayera d'approcher une femme de gangster, sans succès. Donc, elle fera la composition d'elle-même. L'implication des acteurs a créé cette atmosphère et ce rythme qui dépeint l'insouciance des protagonistes de cette histoire. C'est aussi le but avoué de Scorsese, qui le dit lui-même. Je voulais beaucoup de mouvement à travers l'ensemble du tableau. Et je voulais du mouvement jusqu'au moment où Henry se fait arrêter et que tout son univers s'effondre à la fin. Pour le dernier jour de Henry en tant qu'affranchi, la séquence entière devait être hors de contrôle. donner l'impression qu'il est tout simplement au bord du précipice et qu'il va chuter. Les Affranchis, c'est aussi la rencontre de Nicolas avec Nicolas Pileggi, journaliste spécialisé dans la mafia et auteur du livre Wise Guy, dont est tiré le film. J'ai attendu ce livre toute ma vie, aurait dit Scorsese, qui considère ce livre comme le témoignage le plus honnête de la vie de gangster. Pileggi aurait de son côté attendu cet appel sa vie entière aussi. Ils ne se marieront pas pour avoir une ribambelle d'enfants, mais collaborant une seconde fois pour l'adaptation du livre Casino, Love and Honor in Las Vegas. Dans ce film, on quitte New York et les cinq familles de l'outfit de Chicago, qui avait la main mise sur l'industrie du jeu à Las Vegas. Casino, c'est un film qui a une histoire, mais pas d'intrigue pour son réalisateur. D'ailleurs, Pileggi voulait d'abord sortir le livre avant de passer à l'adaptation au cinéma. Scorsese lui suggérera le contraire. Pour ma part, ce qui différencie Casino des Affranchis est la présence quasi hypnotique de Joe Pesci. Dans ce film, il explore son côté le plus sombre, fou et inconscient, en incarnant Nicky Santoro, inspiré d'Anthony Spilotro, surnommé Tony la Fourmi ou encore Tony le Dur, tueur de la mafia, ce qui d'ailleurs le plus flippant. C'est Joe Pesci, pendant près de 180 minutes, incarné un véritable psychopathe qui n'avait aucun état d'âme, qui n'hésitait pas à coincer la tête d'un gars dans un étau pour lui soutirer des informations, quitte à lui sortir un œil de son orbite. Ce n'était pas un tueur froid du genre de Richard Kuklinski qui congelait ses victimes pour brouiller les pistes. Non, c'était un véritable impulsif qui était aussi un spécialiste du cambriolage en douceur, le fondateur du Hole in the Wall Gang. Le visionnage de cette film m'a plus poussé à rechercher les biographies de ces mafieux. C'est te dire la capacité de Scorsese de t'imprimer les personnages qu'il crée dans ton esprit. C'est aussi la marque d'un grand réalisateur qui ne se contentera pas qu'au simple film de crime et délit. Après Les Affranchis, Scorsese reprend avec lui Robert De Niro pour un nouveau film, remake, mais toujours à la sauce Scorsese. Les nerfs à vif. De Niro joue l'ancien client d'un avocat, joué par Nick Nolte, qui veut se venger parce qu'il ne l'a pas défendu comme il le fallait lors de son procès pour viol. Un thriller haletant, mais avec aussi Jessica Lange, Robert Mitchum ou encore Gregory Peck. Les deux derniers, avec Martin Balsam, avaient joué dans la version originale de 62, réalisée par Jack Lee Thompson, réalisateur aussi des Canons de Navarone et de La Loi de Murphy avec Charles Bronson. Les années 90 de Scorsese ne sont pas donc que Casino et Les Affranchis, et encore moins ses multiples collaborations avec Robert De Niro. C'est aussi Le Temps de l'Innocence, qui marque sa première collaboration avec un acteur qui ne s'est jamais ménagé dans ses prestations, Daniel Day-Lewis. La critique est enthousiaste, mais le film ne connaîtra pas le succès au box-office. Ce sera la même chose pour Kundun, biopic sur le 14e Dalai Lama. Des succès d'estime qui n'empêcheront pas Scorsese de continuer à se diversifier quant à son approche filmique, à travers Un tombeau ouvert, où sa caméra parcourt sa ville, New York, et explore ses recoins les plus sombres et les plus désespérés, filmant la face hyper crade des couches les plus pauvres de la ville. Un tombeau ouvert, c'est avant tout l'histoire d'un ambulancier hanté par les fantômes des gens qu'il n'a pas pu sauver. La distribution n'est pas mauvaise, avec John Goodman, Patricia Arquette et Nicolas. Vous voyez comme je joue mal, mais j'aurai des rôles partout. Mon tonton, c'est Francis Ford Coppola, Cage. Dans le rôle de l'ambulancier qui veut se faire virer, mais n'a pas le courage de démissionner. Bon, j'ai beau détester Nicolas Cage, qui par sa simple présence donne des envies de suicide tellement son jeu est inconstant et insipide, usant d'un surjeu qui ne lui va pas du tout, parce que le cabotinage, c'est pour les grands acteurs, comme Jack Nicholson ou Al Pacino. Parce que voir un film avec Nicolas Cage, c'est s'attendre à une prestation qui te fait oublier le sujet du film. Excepté 60 secondes chrono et The Rock, parce qu'il y a aussi Sean Connery dedans. Et à ton bout vert aussi, ce sont les rares films où Nicolas Cage joue plus ou moins sobrement. Les années 90 de Scorsese ont été de véritables montagnes russes, qui, malgré tout, ont permis aux réalisateurs de faire des films intéressants, traitant de thématiques différentes, mais qui n'ont pas toujours capté l'attention du spectateur. mais ce n'est que partie remise, car Martin Scorsese va revenir plus fort en 2002. Mais ça, je préfère vous le raconter lors du prochain épisode. Donc, à suivre.
Yeah, merci Butch. Cool, hein? Ah, bien, 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 bien. C'est top, c'est prenant. Hein? Ah, c'est très très prenant. Et Joe Pesci, la scène où il l'a fait du premier coup dans le bar, je crois. Non, c'est dans le bar ou dans.
C'est une scène qui est improvisée. C'est ouais. La scène du bar dans Les Affranchis.
Ouais.
Dans cette scène, Joe Pesci est en train de raconter son interpellation par les flics à Ray Liotta, à Henry Hill, donc joué par Ray Liotta, entouré de justement des autres hommes de main. Et là, à un moment, Henry Hill, Ray Liotta, lui dit « t'es marrant ». Et là, justement, Joe Pesci change de visage et commence à lui demander « marrant comment ?»« Comme un clown ? Est-ce que je t'amuse ?» Et justement, cette scène est totalement improvisée de la part de Joe Pesci.
Ouais, mais là, c'est de la haute
et
gamme.
Et ce qui fait que, justement, que la scène n'a pas été refaite, c'est le fait que Ray Liotta, justement, s'est embarqué dans ce jeu-là. En arrivant à réussir, il a réussi à conclure, cette impro de Pesci en désamorçant la chose, en lui disant « Arrête de te foutre de ma gueule, Tony ».
Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, Ray Liotta, je me souviens, il était venu dans l'émission, je crois que c'était nulle part ailleurs, à l'époque Michel Denisot, ouais. Et il en pleurait, quoi. Il a raconté cette scène, effectivement, et il en pleurait, quoi. Il avait les larmes aux yeux tellement que c'était la scène parfaite, quoi. Mais parfaite. C'était dans tous les sens du terme et du premier coup. Joe Pesci, c'était juste fantastique, quoi. Voilà, quoi. Et la scène du cow-boy qui met ses pieds sur la table, elle est pas mal, celle-là aussi.
C'est, en fait, chacun des rôles de Joe Pesci, donc bon, ouais. C'est vrai qu'il faut pas cantonner Joe Pesci au simple rôle de mafieux. C'est ce qui a fait qu'il a aussi arrêté sa carrière.
Ouais, il a fait.
Il a arrêté sa carrière à cause de ça parce qu'on lui proposait toujours les mêmes rôles.
Ouais, il a fait. J'ai trouvé très moyen dans L'Arme fatale, quoi. Tu vois, le mec un peu emmerdeur et tout.
C'est justement Joe Pesci voulait montrer qu'il avait aussi une palette de comédiens. Donc, ouais. Il l'a fait à travers L'Arme fatale 2 et
ouais.
3.
Ouais, j'ai pas aimé.
Ainsi que bien sûr les diptyques Maman, j'ai raté l'avion.
Ouais, ça c'est pas terrible. Mais dans Les Affranchis, c'est monumental, quoi. Voilà, quoi. Bah écoute, Butch, merci beaucoup. Juste une petite anecdote, s'il te plaît, Butch. Les Who, cette semaine, on a eu ça sur Bladeros. Un des membres des Who a précisé qu'ils ont participé à l'élaboration du heavy metal. Alors t'imagines, ça vient des Who.
Bah. Ça c'est drôle, hein.
Ouais.
Justement, donc c'est Pete Townsend qui dit que nous avons en quelque sorte contribué à la création du heavy metal, et très sincèrement, je ne peux pas lui nier ça, parce que quand on écoute les premiers albums des Who, il y a des chansons qui ont même, il y a une chanson qui s'appelle Boris the Spider. Issu d'un album de 1967, je me rappelle plus du nom, ça, il faudra que je revoie ça, dans lequel un chant guttural est par exemple utilisé.
Déjà.
C'est aussi le jeu de batterie complètement anarchique et complètement anarchique, mais tout le temps synchro de leur batteur, Keith
okay.
Moon.
Ok.
La puissance, c'est aussi cette puissance-là. C'est aussi le jeu de Moulinet de Pete Townsend, qui est un des meilleurs rythmiques de l'histoire du rock et un des meilleurs compositeurs de l'histoire du rock. Mais aussi de Who, mis à part le fait qu'ils aient contribué aussi à la création un petit peu du heavy metal, ils ont aussi contribué à créer une des premières véritables chansons de rock progressif, qui est A Quick One While He's Away, de l'album du même titre, du même nom, sorti en 65 ou en 66.
Voilà. Bah écoute Butch, merci beaucoup en tout cas. Il nous reste quelques secondes avant 21h, puisqu'il y a la soirée heavy metal qui va démarrer juste dans 7 secondes. Merci en tout cas. Sur 213 Rock, sur la web rock station Green Times, le Classic Rock Radio, vous retrouverez la semaine prochaine. Pour ma part, ce sera demain soir sur 213 Rock. Et bon réveillon à tous, joyeux Noël. Butch, à la semaine prochaine. All right, Mike?
All right.
Allez, ciao, ciao, man. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous et restez bien sur les programmes de la radio Vinyltimes, le Classic Rock Radio, tout de suite, le spécial Heavy Metal sur Vinyltimes, bien évidemment. Allez, ciao, ciao. À demain. Bye bye.